Lire.
Vous travaillez beaucoup, Quentin Mouron. Vous avez publié 5 romans à un rythme soutenu, alors que vous n'êtes pas encore si vieux que ça. 5 romans à peu près à un rythme de 1 par année, et puis tout à coup plus rien. Pendant quelques années, vous avez travaillé à ce Vesoul le 7 janvier 2015. Ça veut dire que l'accouchement était difficile ?
L'accouchement n'était pas difficile, mais le chantier était vaste. Il a fallu réinventer un langage. Tandis que je pensais avoir trouvé un langage dans les précédents romans, je pensais avoir trouvé des thèmes fétiches. Alors je me suis dit, bon, c'est bon, je vais parler du masque et des apparences encore pendant 30 ans, ma retraite est assurée. Et puis finalement, tout d'un coup, il y a eu une... ce qui s'est produit, parce qu'il n'y a pas eu d'événement. Hein. Malgré ce que le titre suggère, j'ai commencé à l'écrire avant les attentats de Charlie Hebdo, donc il y a environ 4 ans. Et puis là, tout à coup, j'ai eu le besoin, je crois, de trouver un nouveau langage, de dire quelque chose d'autre, de trouver un nouveau ton aussi, et trouver un ton... littérature n'est pas très facile. Je croyais avoir trouvé quelque chose d'un petit peu tragique comme ça dans mes premiers livres. Et puis finalement, bah là, le tragique a été mis de côté au profit de la farce. Et puis quand on doit se réinventer en farce, ça a l'air facile comme ça, surtout.
Ah non, c'est très difficile. C'est rentable.
C'est peut-être le plus difficile. Hein, la prolifération des humoristes un peu partout en Suisse romande fait oublier que être drôle, c'est finalement du travail aussi. Oui. Et par conséquent, c'est ce qui m'a demandé en effet le plus de temps. Et c'est pas mal finalement de me laisser en jachère aussi. Ça permet, ça signifie peut-être que je suis pas encore trop imbibé de pesticides Monsanto, donc j'ai pu repousser après cette jachère, et maintenant c'est vrai que je me sens plus fort, en tout cas dans mon écriture, plus assuré.
Jean-Marie Félix.
Est-ce que cette prise de distance avec la scène littéraire, Quentin Mouron, tient aussi au fait que vous avez récemment rédigé un mémoire de master sur l'écrivain français Jean Lorrain ?
Pas tellement. Je dois dire que j'ai eu la chance. L'université de Lausanne m'a laissé faire mon master en 4 ans plutôt qu'en 2 ans réglementaires, puisque j'ai pu justifier une activité artistique à côté. Donc au fond, l'université a plutôt été pour moi une sorte de hobby éclairé ces dernières années, où je me rendais vraiment avec plaisir au cours, et j'ai pas eu vraiment le mémoire. Bien sûr, ça a pris un peu de temps. Je dis pas que je l'ai fini en quelques jours, mais c'est pas tellement ce qui m'a pris le plus de temps. Je crois que c'était aussi des choses personnelles où j'ai voulu vivre aussi des choses différentes, autres que la littérature.
Rappelez-nous qui était Jean Lorrain, quelqu'un qui était un peu proche de vous, avec lequel vous vous sentez des affinités ?
Alors, je suis moins hétéromane que lui, Dieu merci. Oui, c'est déjà pas mal, mais c'était un chroniqueur, une sorte de franc-tireur, comme on le lit dans La Liberté du samedi dernier, qui tirait sur le tout Paris, vraiment qui flinguait le tout Paris. Il était sauf erreur au Figaro, il a été vraiment un des chroniqueurs mondains et chroniqueurs littéraires les plus craints de la fin du 19e siècle, les plus célèbres également. Il s'est battu en duel contre Proust, il a failli se battre en duel contre Maupassant, mais Maupassant avait la réputation d'être excellent bretteur, et donc Jean Lorrain s'est retiré de lui-même. Mais c'était vraiment quelqu'un d'assez subversif, puisqu'à la fois il hantait les salons de Saint-Germain-des-Prés, et où il était toujours un peu méprisé, d'une part parce qu'homosexuel, d'autre part parce qu'extrêmement fardé, extrêmement démonstratif. Il fréquentait aussi, d'autre part, les milieux interlopes du Paris de la fin du 19e siècle, les lutteurs qu'il aimait beaucoup, les garçons bouchers pour lesquels il avait une prédilection. Et donc c'est vraiment déjà c'est le Jean Lorrain anecdotique, si on veut, dont on a déjà quand même passablement parlé dès les années 30, mais on en est resté à l'anecdote, et j'avais envie d'aller derrière l'anecdote, essayer de flairer cette angoisse du réel qu'on trouve chez Jean Lorrain. Et mon mémoire d'ailleurs s'intitule Jean Lorrain ou l'impossible fuite hors du monde, qui dit cette angoisse du réel.
C'est un être qui ne manque pas de panache à vous entendre, et en vous entendant on s'en rend compte que vous aussi vous ne manquez pas de panache, Quentin Mouron. On va revenir à vous-même, puisque vos 3 premiers romans ont paru chez un éditeur que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. C'est un ami, il s'appelle Olivier Moratel. C'est lui qui vous a découvert il y a une dizaine d'années pour votre premier roman, et après avoir publié De Polar ou Pastiche, De Polar aux éditions de La Grande Ourse par la suite, vous revenez aujourd'hui chez votre éditeur originel. À croire en effet qu'une fidélité éditoriale indéfectible vous lie à Olivier Moratel.
Oui, je crois qu'il y a une fidélité éditoriale, plus encore qu'une fidélité, parce que quand il y a fidélité, c'est aussi que, dans un couple, c'est aussi parce qu'on est satisfait. Or, moi, je suis satisfait avec Olivier Moratel, c'est un excellent éditeur, il fait un travail fantastique, c'est vraiment quelqu'un qui... un travail de communication déjà, mais aussi un travail d'édition qui me plaît beaucoup. Il a engagé en plus une attachée de presse qui est à Paris, qui peut s'occuper de la promotion en France. Donc c'est vraiment maintenant un éditeur français. Il s'est déplacé à Dole, en Franche-Comté. Et donc Il avait toutes les cartes en main pour me séduire, en quelque sorte. J'aurais pu aller, bien sûr, chez un autre éditeur, mais je pense que c'est vraiment un texte qui était pour lui. C'est un texte qu'il a parfaitement compris, et c'était pas facile, hein, parce que quand on propose ce genre de texte-là, qui est peut-être un texte qui tranche avec certaines choses qui sont publiées actuellement, c'est difficile de frapper à la porte d'un grand éditeur, et c'est difficile ensuite de trouver vraiment quelqu'un qui peut se passionner, s'enthousiasmer pour ce texte. Et ça a été le cas d'Olivier Moratel, et donc on s'est retrouvés avec beaucoup d'éclats de rire, et ça, c'est ce qui signait aussi notre collaboration dès ses débuts.
Pendant ses premières années, Olivier Moratel était établi à la Chaux-de-Fonds, et puis depuis peu, il a transféré ses activités de l'autre côté de la frontière, à Dole exactement, en Franche-Comté. Je l'ai joint par téléphone, c'était lundi dernier, nous étions exactement le 7 janvier, ça tombe bien, pour lui demander de quoi est nourrie la fidélité éditoriale qui vous lie à lui.
Je m'avais parlé une fois avec Quentin, c'est déjà l'un de mes meilleurs amis dans la vie, hein, donc c'est quelque chose, une relation qui s'est créée à travers l'objet, à travers le livre. C'est qu'on a une totale confiance et aussi une admiration réciproque pour le travail l'un de l'autre. Je veux dire, c'est un des rares auteurs, vraiment, j'ai une confiance et une admiration sans faille pour lui. Si vous voulez, j'ai un peu la relation avec Quentin, celle que j'ai, c'est un peu la même que Truffaut, toute proportion gardée, bien sûr, avec Jean-Pierre Léo. Mmh. Truffaut et Léo, quelque part, Quentin me représente pas, mais je veux dire, il suit un peu ce que je ne fais pas. J'ai une relation comme ça, dans chaque livre, dans chaque film, Léo apparaissait dans les films de Truffaut, il y avait quelque chose de l'ordre de père spirituel, mais aussi d'une amitié importante et quelque chose où les deux se retrouvaient. Je dirais que cette allégorie, que cette comparaison entre Truffaut et Léo, c'est ce qui me parle le plus.
Oui, Quentin Mouron, vous sentez le Jean-Pierre Léo d'Olivier Moratel?
Bon, moi je regarde que Louis de Funès, donc je suis pas très assez pour en parler, mais oui, c'est tout à fait, c'est déjà très touchant ce qu'a dit Olivier, et je crois que c'est assez vrai. On a un rapport aussi sur le texte, c'est-à-dire que c'est pas seulement un texte fini que je lui donne et où il fait quelques annotations nerveuses en rouge et il me le renvoie pour que je corrige. On a vraiment une discussion. Parfois, je lui envoie déjà quelques chapitres encore peu développés. Je lui dis, mais là, tu penses que je vais dans le mur? Qu'est-ce que tu veux? Et puis là, il me dit, non, mais soit c'est super, soit il me dit, mais oui, là, j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu aurais pu faire autrement. Et c'est vraiment une discussion. Et cette fois, encore une fois, ça a vraiment fonctionné. Je crois que ça a parfaitement fonctionné pour Vesoul le 7 janvier 2015, parce que je crois qu'il a saisi à la fois ce qui était original, novateur et puissant dans le texte, mais aussi certaines faiblesses qui m'étaient passées au-dessus, parce que forcément on est un tout petit peu trop proche de la surface du texte quand on écrit.
Et parfois, quand un éditeur vous souligne des faiblesses ou vous les pointe du doigt, on peut en prendre conscience?
Alors je grogne toujours au début, hein, je dis non bien sûr, ça va de soi, je refuse catégoriquement pendant quelques jours, et puis souvent après je lui donne raison.
Oui, c'est vrai.
Oui.
L'éditeur qui gagne sur l'auteur, ça prouve, disons, un magnifique rapport de l'un à l'autre.
Je ne sais pas si c'est une histoire de victoire, c'est un compagnonnage plutôt.
Alors je pense que c'est plutôt un compagnonnage, je pense que si ce n'était pas une victoire qui était aussi ma victoire, je ne le laisserais pas gagner. D'ailleurs, parfois je refuse quand c'est des choses qui me semblent peu pertinentes, mais c'est vrai qu'il a un œil que j'aime beaucoup et je crois qu'il comprend parfaitement la démarche. Et parfois on est un petit peu emporté, parce que ce qui est difficile quand on écrit un livre, ce n'est pas forcément de l'écrire, c'est d'effacer. Et forcément quand on a travaillé des jours et des semaines sur un chapitre, on n'a pas envie de l'enlever. Même si on sent consciemment ou plus ou moins consciemment qu'il a rien à faire là, ce chapitre, et qu'on doit l'enlever, et qu'il alourdit le tout, et qui peut peut-être désorienter le lecteur, et que même pour l'auteur, c'est quelque chose qui n'est pas terrible, mais il faut quelqu'un qui nous le dise, et parfois qui nous le dise un petit peu violemment, en disant, mais écoute, ça, il faut couper.
Il peut vous le dire violemment, Olivier Moratel, parce qu'il connaît bien votre univers littéraire depuis une dizaine d'années. Et quand je lui ai demandé, toujours au téléphone, quelle fut sa réaction à la découverte du manuscrit de Vesoul le 7 janvier 2015, voici quelle fut sa réponse.
Au départ, il travaillait encore sur ça, je veux dire, justement, pour pouvoir publier à La Grande Ourse, hein, qui depuis a malheureusement pour eux arrêté leurs activités. Il m'a fait lire ça, je veux dire, comme un ami, hein, pas comme un éditeur, mais comme un éditeur ami, on va dire. Je me suis dit, mon Dieu, je veux dire, il a refait quelque chose, cette fois, de complètement différent. Grand Ours, il avait fait quand même deux polars, même si c'est deux faux polars. Hein, il jouait sur les codes du polar pour mieux les démonter. Mais là, on retrouvait quelque chose d'assez jouissif. Et puis, de nouveau, des phrases assez folles. Très différentes quand même des premiers. On n'est plus dans les phrases poétiques, on n'est plus dans la poésie en prose. On est beaucoup plus dans le jeu de la phrase. On est dans le jeu de mots, presque. On est un peu dans le Raymond Devos par moment. On est dans la magie, on est dans les phrases très longue, proustienne, et à la fois stalinienne, parce que c'est du parler écrit. J'ai beaucoup compris. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce livre dans tous les médias, mais on oublie souvent de le dire que c'est un livre qui est drôle et qui est agréable à lire. C'est pas un... Et bien sûr, derrière, c'est du cyanure, mais c'est du cyanure qui est très, très agréable à prendre.
Ah oui, du cyanure très agréable à prendre.
La formule est jolie.
Oui, la formule est jolie. On va enfin en arriver au texte. Enfin. Ce texte que l'auteur pense que, Quentin Mouron pense que son éditeur a complètement compris, saisi très intelligemment. Mmh. Quel est-il, ce texte?
Alors c'est vrai, d'abord, il faut le dire que ce livre est drôle parce qu'il est écrit, vous le disiez tout à l'heure, Quentin Mouron, sur le mode de la farce et de l'outrance. Et on retrouve le regard cruel que vous portez en général sur notre monde contemporain. Celui qui prend la parole, donc le narrateur de ce récit, c'est un jeune homme qui pourrait avoir votre âge. Et dès les premières pages, on apprend qu'il a fui la Suisse pour échapper aux tracasseries administratives.
Je recevais périodiquement des lettres imprimées sur papier orange. Elles émanaient de l'administration. Il s'agissait de m'indiquer quand aurait lieu mon prochain service de protection civile. Mais ces convocations étaient avant tout des prétextes pour adresser une liste invraisemblable d'interdictions, d'obligations, d'infractions possibles et de sanctions corollaires. Certains s'accommodent des menaces. Juste évident que l'on utilise vos impôts pour imprimer des lettres incendiaires que l'on vous expédie ensuite. Pas moi. Je voulais bien donner mon argent à l'État, mais j'entendais que celui-ci reste poli et qu'il ne prenne pas trop d'aise. Qu'il ne s'abandonne pas à toutes les familiarités.
Et donc sur la route, votre narrateur croise un dénommé Saint-Preux, un jeune cadre dans une grande banque suisse qu'il accueille dans sa berline de luxe. Et Saint-Preux se rend à Vesoul, en Franche-Comté, donc, pour assister à un congrès de décideurs en quête de projets innovants.
La puissante A4 berline nous emmenait dans la nuit, le long de la route nationale. Il neigeait. Il y avait du brouillard. Les jeunes cadres, les commerciaux, les vendeurs ambulants et les artistes cotés sont friands de la Marcaudi. Mon chauffeur ne faisait pas exception. Nouveau trentenaire, gestionnaire de fortune, arborant plaques genevoises, il m'avait pris en autostop peu avant Besançon. Il se rendait à un congrès. Quant à moi, je devais voyager en train, mais les cheminots étaient en grève. « Monte !» m'avait-il lancé sur un ton de décontraction feinte. La décontraction était visiblement sa grande affaire. Il déployait des efforts considérables pour paraître cool, original. Il se grattait les couilles, me montrait ses tatouages et rotait sans arrêt. Tous les cadres sont un peu transgressifs. Ça fait partie du métier.
Les cheveux au vent, le fugitif et le jeune cadre sympathisent, au point que le premier se déclarera le disciple du second. Ils arrivent à Vesoul le 6 janvier 2015, et en attendant l'ouverture du congrès prévu pour le lendemain, ils découvrent avec une certaine curiosité les particularités d'une petite ville de province, bien éloignée des grandes métropoles urbaines. Ils se rendent d'abord dans un troquet assez sinistre, où les habitués s'achèvent à coups de vin d'arbois, hostile à tout ce qui rime avec Europe et mondialisation. Et puis ils découvrent ensuite un salon du livre poétique très fréquenté par les poètes performeurs en tout genre. S'ensuit la visite d'un festival des sexualités les plus diverses, nommé le Festival International du Foutre,
voilà.
Jean-Luc.
Oui, on l'a dit.
Et tout cela se tient à un moment où la municipalité développe une sorte de démocratie participative en engageant les citoyens à s'exprimer de manière directe, fût-ce par la castagne. Et justement, de la castagne, il y en a pas mal dans ce récit où nos deux héros vont se confronter à d'innombrables groupuscules. Parmi eux, les amis de la cause animale, les amis du Hezbollah, les amis des marxistes, les amis des néo-fascistes, bref, beaucoup d'amis. Et tous ces groupuscules très conscientisés donnent à la ville de Vesoul un air d'agora expérimental et de champ de bataille auquel les deux Helvètes participeront avec un certain enthousiasme. Et puis arrive le matin du 7 janvier, alors que le congrès a commencé, se répand la nouvelle d'une tuerie qui vient d'avoir lieu à la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. Le congrès est donc annulé et s'ensuit une réflexion plutôt caustique et cruelle sur les innombrables répercussions que cet événement a eu dans les consciences. Et je n'en retiendrai ici que cette petite phrase définitive en forme d'aphorisme, genre que vous appréciez Quentin Mouron. Charlie, sa vie durant, avait tourné la religion en dérision. Il s'agissait maintenant de tourner la dérision en religion. Donc on va revenir à tous ces thèmes qui sont fort nombreux dans ce livre. Mais avant tout cela, dites-nous pourquoi vous avez choisi pour cadre de ce récit la ville de Vesoul, la ville de Haute-Saône, chantée, on s'en souvient, en son temps par le grand Jacques Brel.
Quentin Mouron.
Je crois qu'il y a deux raisons. Il y a Brel d'une part, parce que Brel nous fait connaître Vesoul sans le connaître. C'est-à-dire que tout le monde a entendu ce nom. personne ne sait où est la ville généralement, et peu de gens y sont allés.
Grâce à vous, aujourd'hui, on le sait.
Alors maintenant, c'est vrai que je fais un peu pour le tourisme, là. J'ai quand même, j'œuvre pour la bonne cause, mais avant moi,
en
c'est vrai
temps,
que c'était difficile à savoir.
Hors date du Festival International du Foutre, ça fait pas tellement envie d'aller à Vesoul, alors, à ce que vous en décrivez.
Oh, moi, je suis toujours partisan pour le fait qu'on peut trouver de toute façon des divertissements un peu partout, et particulièrement dans les endroits où personne ne va. Parce que déjà, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas d'étudiants, c'est ça, c'est parfait, on se sent beaucoup mieux, on peut respirer un peu l'air des bistrots, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc moi, j'aime bien ce genre de ville. J'y étais allé au mois de novembre, en plus, j'ai dormi dans un Formule 1 avec mon ex, il n'y avait plus le chauffage. Bon, c'était 33€ la nuit, donc ça allait, on a pu s'en tirer. Et puis, on a visité un peu Vesoul quand même, mais là il s'agit moins de parler de Vesoul que de donner simplement, d'utiliser un nom qui est connu, qui permet à tout le monde de s'identifier tout de même à cette ville, hein, plus que Niort, comme le fait Michel Houellebecq. Là, avec Vesoul, on sait plus ou moins de quoi on parle, sans le savoir, et ça permet de tout mettre à Vesoul en quelque sorte. Mais c'est un procédé que j'avais déjà utilisé dans mon précédent roman, dans L'âge de l'héroïne, où je me rappelle même plus le nom du bled d'ailleurs, et c'était vraiment un prétexte, parce que de toute façon je n'y étais pas allé, et ça ne m'intéressait pas du tout de faire du pittoresque aux couleurs locales pour montrer les souffrances du peuple périphérique ou je sais pas quoi. Ça, il y a beaucoup d'autres romanciers, généralement tous parisiens, qui le font très bien.
Mais vous le faites aussi?
Moi, je le fais pas dans Vesoul, je crois. Je le fais indirectement, mais je fais pas ce misérabilisme très... très porteur au niveau des prix littéraires, mais assez réducteur du point de vue esthétique.
Vous le faites aussi, mais sur le ton de la farce. C'est ce qui vous différencie, sans doute.
Oui, mais c'est beaucoup mieux de le faire sur le ton de la farce.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Quentin Mouron, ce roman, vous l'avez commencé bien avant la tuerie de janvier 2015 à Charlie Hebdo, et pourtant, cette tuerie constitue le point de fuite du roman. Comment tout cela s'est organisé dans votre tête? Pourquoi on arrivait à cela, et qui constitue d'ailleurs le titre de votre roman, Vesoul, le 15 janvier 2015?
Je crois que c'est un point de fuite qui s'est vraiment élaboré sur la durée. Au début, j'avais cette idée d'un glissement, ce qui est un peu le mouvement général de ces Picaros. Oui. On glisse dans la nuit, on glisse sur les choses, on glisse à la surface du monde. Et rapidement, les attentats ont eu lieu. C'est un événement qui m'a quand même marqué, d'une part, parce que sans connaître directement les victimes, je connaissais certains de leurs amis à Paris. Et donc, c'est vrai que j'ai suivi en direct cette tragédie. Et puis, j'ai ensuite été marqué une deuxième fois, non plus par l'atrocité et la violence islamiste, mais plutôt cette fois par... l'inconséquence et l'hypocrisie des réactions où tout le monde se déclarait agiter des ballons, se déclarait Charlie, et puis une semaine ou deux plus tard, recommençait à taper sur le journal que, de toute façon, il ne lisait pas avant.
Circonstance aggravante, vous décrivez aussi une espèce d'euphorie sur les réseaux sociaux, au départ, oui. qu'on a largement caché, hein, par le mouvement Je suis Charlie. Oui. Dans un même temps qu'il y avait Je suis Charlie, il y avait des gens qui se réjouissaient de ce qui s'était passé.
Bien sûr, je crois que les gens se sont réjouis à double titre, et c'est aussi ce double titre-là qui m'a intéressé, parce qu'au fond, c'était aussi la fracture entre deux mondes, en quelque sorte. Hein, ceux qui étaient, bien sûr, atterrés ou qui faisaient semblant de l'être, et ceux qui véritablement exultaient. Et ces moments d'exultation n'étaient pas anodins. Il y en a eu beaucoup moins pendant les autres attentats en France. Hein. On trouve des fois un type qu'on arrête en France, qui est dans un PMU et qui est bourré, qui écrit « vive les morts » ou je sais pas quoi. Ça arrive. Mais là, c'était quand même une des réactions massives sur Twitter, notamment. On trouvait facilement, hein, des gens qui, non pas disaient qu'ils s'en foutaient, mais vraiment qui assumaient le fait qu'ils se réjouissent. Il y a eu des mouvements aussi. Après qu'il y ait des mouvements de plaisir, je sais pas où, dans le monde, c'est possible. Mais disons, en France, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc ça a été très rapidement, au fond, mis sous le tapis par la liesse générale, parce qu'il fallait que les rues soient occupés non pas par des gens qui se réjouissaient de ces attentats, mais plutôt par des gens qui sont désolés, qui agitaient des ballons. Par conséquent, on a vraiment mis ça sur le tapis, mais au fond, si on lisait vraiment les réseaux sociaux, il y a eu quelques articles au tout début qui sont parus là-dessus, sur Twitter, et des réactions vraiment nombreuses. Et pas, c'était pas seulement un épiphénomène où on se dit, bon, c'est un type un peu désaxé qui tweet. Ça arrive. On en a un qui est président des États-Unis. Mais là, c'était vraiment quelqu'un, disons, quelque chose qui était massif.
Alors, en effet, ce thème des tueries de janvier 2015 constitue le point de fuite de ce roman, et pourtant, ce n'est certainement pas le thème principal de votre roman, Quentin Mouron, parce que dans les premières pages, votre narrateur en exil se dit héritier des héros des romans picaresques. C'est un thème qui revient régulièrement au fil des pages, à croire que Vesoul, le 15 janvier 2015, est un roman picaresque des temps modernes. Et ça, c'est un peu votre thèse, c'est ce qui sous-tend la totalité de ces pages.
Oui, absolument. Je pense que certains érudits du roman picaresque diront que j'ai tort, bien entendu, mais les érudits ne m'intéressent pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire cet élan du XVIe siècle, de cette littérature espagnole, avec des textes même parfois anonymes, hein, où on met aux prises un personnage souvent déclassé, et qui se singularise par sa rupture, sa rupture avec le monde, sa totale isolation du monde, sa solitude, mais aussi un côté très drôle, très mobile, très rebelle. Et là, au fond, les deux personnages, j'ai gardé la mobilité, j'ai gardé le mouvement avec le personnage de Saint-Preux et le narrateur.
Mais vous n'avez pas gardé la misère.
Je n'ai ni gardé la misère, ni la rupture avec le monde. C'est le contraire. Ce sont des gens qui sont, on voit que les Picaros, dans ma thèse, évoluent en quelque sorte. Et puis, après 5 siècles, ils sont devenus non seulement fréquentables, mais en plus extrêmement recherchés. C'est vraiment un peu l'élite occidentale, en quelque sorte. Et donc, il y a un retournement, mais on garde cette idée de mouvement à tout crin.
Eh bien, à ce propos, je vous propose d'entendre un passage du roman où cette notion de Picaro est explicitée sur un ton assez polémique.
Le Picaro est cadre, homme d'affaires, plasticien, écrivain. Il n'a ni attache ni patrie. Il ne reconnaît aucune frontière, aucune religion. Il est planétaire. Il saute les méridiens. Il glisse autour du globe. Son visage est jeune, lisse, pur, sans échancrure ethnique, sans miasme historique. C'est un ange. Mon maître, dans son Audi, me semblait un ange. Son visage était beau. Une fois, j'approchai mes lèvres de sa joue. Il se laissa baiser, mais tint à préciser qu'il n'était pas pédé, même s'il n'avait rien contre. Et c'était exact. Saint-Preux n'avait rien contre personne. Il ne connaissait pas la haine. Par la suite, je ne pus retenir d'autres mouvements. Je lui prenais la main, m'agenouillais devant lui, tentais de lui baiser les pieds. Modeste, il me le refusait toujours. Le Picaro, le cadre, l'artiste reconnaît ses pairs sur tous les continents. Mon maître avait des amis tunisiens, gabonais, colombiens. Mais ils troquaient leur passeport contre un visa couleur de songe. Leur drapeau était celui du monde. Quand Saint-Preux me parlait des Noirs, avec une nuance d'inquiétude, je comprenais qu'il ne parlait pas de son amie ghanéenne de l'UBS ou de cette jeune plasticienne ivoirienne qu'il avait rencontrée à une biennale. Mais de tous ces Noirs qui n'avaient résolument pas la forme de Picaro. Il parlait de ceux qui portent des boubous, mangent des boules de pâte grasse, n'ont à la bouche que l'Union africaine et vivent entassés dans des HLM insalubres. De même, les Juifs étaient pour lui des êtres vêtus de noir, papillotés, enquipatés, qui lisent la Torah et font énormément d'enfants. Les Noirs, les Juifs avec qui ils partagent un cigare dans un lounge feutré de Genève n'appartiennent, quant à eux, à aucune communauté. Et on ne mentionne leur origine que sur le ton de la blague ou de la causerie. En dehors de son lounge, car le monde qu'il a créé ressemble en tout point à un lounge gigantesque, il ne perçoit guère que des foules bigarrées, tribales et bruyantes, plus ou moins menaçantes, généralement désargentées, que l'on nomme communauté et qui, opposée au nomadisme picaresque, passe pour sédentaire. Saint-Preux ne détestait pas les sédentaires. Il lui fournissait l'exotisme dont il avait besoin. Il reconnaissait volontiers que sans eux, sans ces attardés fourmillants, sans ces barbares odorants, le mot « voyage » n'aurait aucun sens. C'était ces communautés, ethniques, nationales, religieuses, qui mettaient du sel dans notre errance.
Voilà un extrait de Vesoul le 7 janvier 2015. Quant à Mouron, c'est pas de la littérature politiquement très correcte, ce que vous écrivez là.
Je ne crois pas que ce qui est vraiment ici de politiquement ou d'impolitiquement correct, parce qu'au fond, l'impolitiquement correct est devenu aussi ridicule que le politiquement correct. Donc pour ma part, je crois que c'est une voie intermédiaire. Simplement, c'est une sorte de point de vue picaresque ici, qu'on retrouve implicite. Alors là, je le rends explicite, et c'est la différence, mais qui est souvent ce qu'on retrouve dans ce que j'appelle le monde picaresque, c'est-à-dire que ce soit le monde des affaires, le monde artistique, hein, le monde artistique coté, si possible, ou finalement, en effet, les origines où les communautés d'origine sont souvent mises sous le tapis au profit d'une espèce d'entente comme ça mondiale, et au fond on se représente toujours, malgré tout, que ce soit les Noirs, que ce soit les Juifs, que ce soit les Arabes, que ce soit n'importe qui, ou les Belges éventuellement, comme des gens comme ça, pas inquiétants, mais au fond, dont les codes nous échappent complètement. Par contre, on fait pas le lien avec ceux qu'on voit régulièrement, parce que là, ça va, en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'ils vivent là, ce que vit Saint-Preux ici, c'est une sorte de... Oui, de racisme qui dit pas son nom, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on considère que les différences, on les célèbre, mais elles nous servent uniquement comme une sorte de piment.
C'est surtout une catégorisation de la société. Tout est fragmenté, atomisé dans ce livre, en tout cas par le point de vue de votre narrateur.
Oui, je crois, absolument. Alors bon, il y a bien sûr un substrat réel ici. On a une explosion quand même de certaines manifestations communautaristes. Et puis en même temps, une sorte d'idéal universaliste qui essaie d'être maintenu par les armes s'il le faut, comme on le voit en France ces temps-ci. Donc au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas de prendre parti pour l'une ou l'autre des positions, c'est de montrer un espèce d'affrontement, en quelque sorte, entre deux visions du monde. Une vision qui est une vision globale, une vision mondiale, une vision planétaire. Mm-hmm. Et puis une vision beaucoup plus resserrée sur les communautés, que ce soit les Français périphériques de Vesoul qui s'avinent dans les bistrots, que ce soit d'autres communautés aussi religieuses ou des extrémistes parfois également. Je pense que c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent, l'une sédentaire, oui. L'autre nomade. Et ça, je suis pas le père de cette distinction, c'était déjà, les sociologues la font depuis un certain temps, hein. On en retrouve des traces parfois, justement, où on explique que on crée une division entre ceux qui peuvent se déplacer, ceux qui ont les moyens de le faire, mais pas seulement de partir en vacances, mais en fait simplement tous ceux qui peuvent suivre le capital. C'est-à-dire que si une usine ferme, ou si une grande fabrique ou une entreprise ferme, ce sont généralement les cadres supérieurs qui, eux, vont pouvoir se déplacer, tandis que les ouvriers, la main-d'œuvre de base, en quelque sorte, elle ne va pas pouvoir suivre le mouvement et va donc devoir rester et chômer dans un coin de campagne. Je termine juste là-dessus. C'est également la même chose hein, pour certaines communautés ou même pour certains migrants, parce qu'on les appelle au fond migrants, mais c'est un abus de langage, parce qu'au fond ce sont des gens qui n'auraient pas voulu partir et qui se retrouvent en Europe. Et c'est la même chose finalement. Hein. Ils sont aussi dans ce sac sédentaire, si j'ose dire, parce qu'au fond, une fois qu'ils arrivent dans un pays d'Europe, peu importe que ce pays leur convienne ou non, ils ne peuvent plus en repartir.
Le fait que votre héros se nomme Saint-Preux, référence peut-être à la nouvelle Héloïse, a de l'importance ou vous avez simplement lu ça sur une plaque, sur un avocat
Alors, de Genève. Il paraît que vous avez un collègue Saint-Preux à couleur 3, mais je dois dire que c'est pas en référence à votre collègue. C'est vraiment...
Ni Rousseau.
Le Rousseau un petit peu plus déjà, c'est un petit peu plus Rousseau, dans le sens où moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir ce nom qui sonne un peu chevalier, qui sonne un petit peu désuet, et puis comme La Nouvelle Héloïse est un roman un peu désuet, je me suis dit que je pouvais tout à fait m'en inspirer.
Vous avez écrit ce texte il y a fort longtemps, vous l'avez commencé en tout cas il y a fort longtemps, Quentin Mouron, et pourtant il s'inscrit dans une réalité dont on parle considérablement et au quotidien, notamment dans les médias français, et bien au-delà, parce que ces picaros, cette élite aux idées dominantes capable de glisser à la surface du monde, c'est elle justement qui est actuellement contestée dans la société française par ce mouvement qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes et qui prend par moments des accents extrêmement violents. Oui, et là, vous vous insérez vraiment dans une actualité brûlante.
Oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'assez proche, c'est-à-dire que ce conflit qui devient de plus en plus ouvert en France, mais qui finalement était aussi un conflit qui a conduit à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, hein, c'est-à-dire cette distinction entre une ville branchée et une campagne laissée pour compte, je crois qu'on le retrouve aussi en France aujourd'hui, en province. On parle souvent des manifestations à Paris, mais il y a aussi des gens qui bravement vont de semaine en semaine sur des ronds-points obscurs au fond de la France périphérique, qui gèlent parce qu'il fait quand même très froid, dans des conditions quand même très dures, et je pense que ce qui était déjà, on pouvait déjà saisir il y a 4 ans, s'est accéléré quand même avec l'élection d'Emmanuel Macron, où tout allait bien au début, hein, qui était plutôt un président relativement apprécié, et puis j'ai l'impression que les choses ont dégénéré, peut-être pas seulement parce qu'il fait partie de cette élite, mais aussi peut-être parce que, c'est une thèse peut-être audacieuse, mais parce que peut-être il ne s'est pas montré assez picaresque justement. Il a tout d'un coup sorti des accents de l'ancien monde, on l'a entendu parodier Louis XIV avec ses grandes déclarations.
Sa perlipopette.
Voilà, par exemple, et puis ses grandes déclarations d'ordre, où il commençait à objurguer le peuple. S'il s'était contenté de faire comme le grand Picaro, qui est Justin Trudeau, le premier ministre canadien, je suis aussi binational, et qui s'était contenté de prendre ses gens dans ses bras en se roulant par terre devant les caméras. C'est ce que fait Trudeau habituellement. Il prend tout le monde dans les bras, il fait des câlins, il se roule dans tous les sens. Et là, ça marche, il n'y a pas de contestation. Parce que même si il est absolument imbuvable et qu'il fait partie de cette élite-là, il a un sourire désarmant, il rigole avec tout le monde. Et ça, mine de rien, c'est un baume qui passe bien sur les plaies. Et là, je pense que Macron a fait cette erreur de se raidir sur des positions qui sont en fait des positions d'ancien régime ou des positions d'ancien monde et qui ne collent plus tout à coup à l'idéal picaresque.
Ben, l'intronisation devant le Louvre et devant la pyramide, c'était déjà, il y avait tout ça en ferment déjà. Hein.
Voilà, exactement. Tandis qu'on n'imagine pas le Premier ministre canadien faire un truc pareil. Généralement, moins de symboles, mieux c'est. Et puis bon, en plus, il adore, il sourit aux bébés, aux vieilles dames. Enfin, c'est vraiment... Là, il a vraiment, je pense, compris quelque chose qu'Emmanuel Macron n'a pas compris.
Il faudrait signaler un aspect important quand même de l'édition. J'ai un exemplaire ici de Vesoul le 7 janvier 2015, Quentin Mouron. Signaler qu'autour du livre figure un bandeau et on vous voit, vous, dans votre perfecto légendaire, tenir un livre incandescent et vous fixer l'objectif de votre regard particulièrement sombre. Un livre en flamme, j'ai un peu de mal ce matin, un livre en flamme, c'est une image quand même assez puissante et inquiétante.
Bon, ça rassure, au moins ça montre qu'encore certaines personnes savent lire les images, et j'en suis flatté. En effet,
elle est évidente cette image.
Oui,
elle a un double sens, elle frappe tout de suite les esprits.
À mon sens, elle est évidente. Elle fait référence, bien sûr, à une forme d'autodafé, en quelque sorte, qui était finalement ce qui s'est aussi produit pendant les attentats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que quand on attaque un journal ou quand on attaque un lieu culturel, c'est pas plus grave pour les victimes, mais c'est bien sûr, c'est un autre symbole. Et je pense que ce symbole-là, c'est destruction au fond de la culture ce jour-là, en tout cas cette attaque contre une forme de culture est manifestée par cette photo. Et peut-être aussi, c'est pas seulement les djihadistes qui ont attaqué Charlie Hebdo, hein, c'est aussi toutes les polémiques qui sont suivies, où on a contesté leur droit à la parole quelques semaines après qu'ils aient été eux-mêmes attaqués. Donc tout ça, je pense, participe d'une sorte d'entreprise d'autodafé, ou plutôt qu'au fond responsabiliser les gens à lire un texte, on va plutôt essayer d'interdire les textes quand ils ne plaisent pas. Et je pense que c'est, en mon sens, un problème. Je pense qu'il y a quand même des tentatives d'interdiction, on le voit pour Charlie Hebdo, et je pense que c'était un clin d'œil, en tout cas c'est aussi une forme d'hommage à la tragédie qu'ils ont vécue.
Et puis ça ne vous aura pas échappé, vous publiez votre livre au moment où Michel Houellebecq publie Sérotonine, son dernier roman, et son précédent, je m'en souviens, c'était Soumission, avait paru précisément le 7 janvier 2015, et certains lecteurs d'ailleurs n'hésitent pas à comparer vos deux écritures, vos deux univers littéraires. Vous sentez-vous proche de Michel Houellebecq?
Je suis un lecteur de Michel Houellebecq, je n'ai encore pas terminé son dernier roman, que je trouve parfois un petit peu autoparodique, je dois dire. En tout cas, dans les deux derniers, Soumission et Sérotonine, je trouve, c'est dommage, moi j'ai adoré La carte et le territoire, et là, les deux derniers m'ont un petit peu moins enchanté, ou désenchanté plutôt, puisque c'est plutôt la spécialité du bonhomme. Mais je crois, je sais pas s'il y a, je pense, un lien, peut-être qu'il y a une sorte d'honnêteté dans le regard. Alors c'est peut-être me jeter des fleurs, mais il y a une manière de dire quand même, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, et on va pas se mettre de barrières, de filtres, on va pas retenir notre liberté. Par contre, je pense qu'il diffère, c'est d'une part l'écriture, et puis le ton est quand même très différent. Là, on est quand même dans quelque chose de plus farcesque, de plus d'une quichotesque aussi, dans un espèce d'élan. Il n'y a pas de souci de réalisme comme il y a chez Houellebecq, qui est parfois drôle, qui parfois est un petit peu redondant aussi, avec ses descriptions d'objets, parfois un petit peu pathétique aussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus pathétique. On est vraiment d'une recherche du pathos, qui n'est pas le cas chez moi.
Alors une dernière fois, Quentin Mouron, j'aimerais donner la parole à votre éditeur, Olivier Moratel, à qui j'ai demandé si votre roman était un bon reflet de notre monde d'aujourd'hui et surtout de sa complexité.
Complètement. Parce que Quentin n'est pas quelqu'un de passéiste, n'est pas quelqu'un non plus, là il est comparé à Houellebecq, hein, ce qui me touche énormément, étant donné que Houellebecq est mon auteur préféré, et même c'est grâce à Houellebecq ou à cause, hein, diront mes détracteurs, que je suis éditeur aujourd'hui, et que je fais l'édition depuis 10 ans environ, parce que Houellebecq, je me suis dit enfin quelqu'un qui parle de l'époque à laquelle je vis vraiment, de ce que je ressens. Bah, Quentin fait la même chose, il est moins noir, Quentin est plus neutre. Dans ce livre, par exemple, il décrit le monde qui se passe, mais il dit pas forcément que les Picaros sont meilleurs que les sédentaires. Il dit pas que les personnes qui sont flexibles, qui ont cette liberté, qui ont cette légèreté, sont meilleures que des gens qui sont enracinés dans les terroirs. Il a pas de thèse là-dessus. La seule thèse qu'il a, c'est de rire, c'est de raconter ce qu'il voit. quoi. Et c'est ça qui frappe pas mal de gens, c'est que on n'en sort pas triste, on en sort un peu quand même ébranlé, parce que c'est vraiment la vision de ce monde. C'est une farce, mais c'est aussi un roman très sérieux, mais c'est se moquer de soi, c'est se moquer des autres pour peut-être moins se voir mourir aussi. Hein.
Rire, se moquer pour moins se voir mourir, c'est une bonne raison d'écrire, Quentin Mouron ?
Oui, je pense que c'est une des raisons d'écrire. Je pense que... Et c'est une des raisons de rire également. On parlait de Houellebecq, je pense que Houellebecq tire plutôt du côté de Schopenhauer, et moi de Nietzsche, j'ai quand même cet élan vital encore avec moi.
Vous avez fait des études de philosophie, ça s'entend.
Ça c'est une citation qu'on aurait même pu faire dans le bus. Hein, c'est...
Mais la philosophie se fait aussi dans les transports bien publics, sûr, mon bon monsieur.
C'est vrai. Philosophie de comptoir, c'est quand même aussi un grand classique. Un grand merci d'être venu nous voir, Quentin Mouron, pour parler de Vesoul le 7 janvier 2015, dans Nous recommandons la lecture, où le fait paraître, on l'a compris, chez Olivier Moratel. Et puis il faut dire que Jean-Marie parlait de votre célèbre Perfecto, moi je ne l'ai pas vu encore. Le porterez-vous ce soir ?
C'est une sorte de Perfecto en creux, hein. C'est carrément une sorte d'ontologie négative pour revenir à la philosophie. Donc wow. Pour l'instant, il n'existe que dans les paroles.
D'accord, très bien.
Ce soir, parce qu'il se passe
paroles,
quelque chose.
Oui, ce soir, parce que on pourra vous rencontrer à la librairie de la Louve à Lausanne dès 19h30, puisque vous allez y vernir votre livre.
Exactement, je pense que je vais déjà boire un verre, même une demi-heure avant, donc faut pas hésiter à venir en avance s'il fait froid.
Un petit vin d'Arbois ?
J'espère, c'est l'éditeur qui pourvoit.
Attention, ça peut faire des dégâts.
Je ne sais pas si Marie-Claude Caudry arrive à nous retrouver le Albert Ayler qu'elle a déjà un petit peu mis de côté. Vous parliez de Albert Ayler et de sa présence à QI en page 15 de votre livre Quentin Mouron. Albert Ayler, un grand défenseur de la parole libre, on va dire, en musique, hein, du free jazz.
Oui, absolument. Moi, j'aime beaucoup non seulement le jazz, mais en plus le free jazz et encore plus particulièrement Albert Ayler que je trouve habité complètement.
Alors, un peu de causticité habitée pour vous dire au revoir. Thank you. Arrêter Albert Ayler.